nécessairement populaire, c'est le sujet de la prière. Et je vais vous dire pourquoi le Seigneur me met à cœur de vous parler de la prière ce matin. C'est simplement lors de mon voyage en Ukraine, je me suis aperçu que les gens, j'espère que c'est pas juste une impression, mais que les gens priaient différemment des chrétiens de Belgique. Et que finalement, c'était une réaction normale et très, très spontanée pour les Ukrainiens de prier à chaque fois que l'occasion se présentait, ils priaient. Par exemple, il arrive, nous autres, que quand on utilise une voiture, si on fait un long voyage, on va demander à quelqu'un dans la voiture de prier pour que Dieu nous protège. Et là-bas, le pasteur, il y avait une vieille Vaux qui avait 30 ans. C'est l'ancien autobus, le minibus. Et on était une dizaine de personnes une journée dans cette voiture. Il y avait deux jeunes enfants. Et sans qu'il la demande, eh bien, les 10 personnes, on a prié, quoi. Et Jean était assis à côté de moi, il me traduisait. Mais la profondeur des prières, c'est des gens qui vivent vraiment une communion. Je ne suis pas en train de dire que les prières ne sont pas belles, mais simplement en train de dire que le ressenti, en tout cas, c'est que les gens, ce qu'ils prient, c'est ce qu'ils vivent avec le Seigneur, quoi. Et moi, ça m'a parlé énormément parce qu'il y a combien de chrétiens qui viennent me voir et qui me disent, pasteur, mes prières, j'obtiens jamais de réponse à mes prières. Et peut-être que c'est votre cas ce matin. Peut-être que vous faites partie de ceux que Dieu ne répond jamais à vos prières. Vous connaissez certains passages des Écritures sur la prière, il vous parle à Dieu, mais au final, un grand nombre de vos prières demeurent sans réponse. Et c'est mon message ce matin, parce qu'il y a des raisons pour cela, et on va regarder à travers un passage des Écritures, pour quelles raisons Dieu ne répond pas en particulier à certains, ne répond pas à leurs prières. La première question que je pourrais vous poser, c'est avez-vous déjà cherché à savoir pourquoi Dieu ne répond pas à votre prière? Avez-vous pris le temps de regarder si votre manière de vivre pouvait faire en sorte que Dieu ne réponde pas à vos prières? Avez-vous déjà réfléchi à ce Dieu à qui vous adressez vos prières? Vous vous dites peut-être que tout le monde croit en Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui croit au seul vrai Dieu, au Dieu de la Bible. Pourtant, beaucoup de gens affirment adresser des prières à Dieu et s'attendent à ce que Dieu réponde à leurs prières, et pourtant leurs prières demeurent sans réponse. Encore une fois, je le répète, peut-être que c'est votre cas ce matin. Et c'est simplement un examen de conscience qu'on est tous appelés à faire, moi le premier en tant que pasteur. Mais c'est Dieu n'a pas répondu à vos prières. Et ce qui arrive aussi, c'est que quand souvent un chrétien prie et qu'il n'y a jamais de réponse à ses prières, eh bien souvent il cesse de prier, découragé, en pensant que ce que la Bible dit, c'est pas vrai parce qu'il y a des promesses dans la Bible et ça se réalise pas dans leur vie. Pourtant, je demeure convaincu que la Bible est la vérité révélée de Dieu à partir de la première page jusqu'à la dernière page et que les promesses qui sont contenues entre Genèse et Apocalypse, elles sont véridiques et elles sont tous applicables, elles sont applicables à la grande majorité des chrétiens en fonction des situations qu'ils vivent. Je vous invite à écouter attentivement ce message parce qu'il est possible que vous découvriez ce matin une raison parmi tant d'autres pourquoi vos prières restent sans réponse. Et je vous invite à tourner avec moi dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Alors, il y a déjà quelqu'un qui a prié pour la prédication, pour le prédicateur ce matin, donc on ne fera pas double emploi, on va aller directement dans le message. Actes chapitre 12. On va lire dans un premier temps les versets 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, c'est-à-dire une escouade, ça se composait de 4 soldats, donc de 16 soldats, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après Pâques. Alors, Pierre, c'est un dangereux criminel. On a placé 16 soldats autour de lui pour être certain qu'il ne s'énerverait pas et qu'il finalement ne se sauverait pas. Une escouade, je le répète, c'était 4 soldats. Hérode a placé 4 escouades de 4 soldats pour accompagner Pierre en prison. Alors, Pierre était donc gardé en prison et l'Église ne cessait d'adresser de ferventes prières à Dieu pour lui. Je marque bien fervente prière parce que dans le texte original, le mot prière qu'on utilise ici, c'est instante prière, fervente prière. Donc, c'est vraiment, vraiment important parce que à travers ce qu'on va parler ce matin, ça va faire toute une différence. Parce qu'il y en a qui prient pour prier, hein. Il y en a qui prient pour le plaisir de prier, mais on va voir la différence entre prier avec ferveur et prier avec insistance. Pardon. Rappelez-vous de ça ce matin, rappelez-vous que l'Église adressait de ferventes prières à Dieu pour lui. Ah, c'est gentil, merci. Merci. Frères et sœurs, pouvez-vous affirmer ce matin que vous adressez de ferventes prières à Dieu? Ou bien seriez-vous porté à dire, je ne sais pas si mes prières sont ferventes ou non, mais je prie. Je vous invite à regarder ce qui se passe ici dans ce passage. Vous découvrirez peut-être quelque chose concernant votre propre vie, de prière ce matin. Il est bon de se rappeler que ce même roi Hérode, qui avait fait tuer Jacques sans aucun avertissement, voyant que cela semblait avoir satisfait aux Juifs, c'est ce que le texte nous dit, satisfait les Juifs qui détestaient les chrétiens, va faire arrêter Pierre et le faire mettre en prison. Pierre connaît les intentions d'Hérode et il sait que celui-ci a l'intention de le faire comparaître devant le peuple et le faire tuer par l'épée, comme ce fut le cas pour Jacques, afin de satisfaire, les fanatiques des Juifs. Pierre sait que ses jours sont comptés. Que va-t-il se passer? Les chrétiens vont se réunir unis d'un même esprit, dans la maison de Marie pour prier, verset 12. Et il prie pour que Dieu libère Pierre, sachant comment les Romains traitaient leurs prisonniers. Et ils étaient certains que le lendemain, lorsqu'Hérode ferait comparaître Pierre, Pierre serait exécuté. Lisons maintenant les versets 6 à 10. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en disant, « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. Hey, on n'est pas dans un film, hein? Il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas d'ordinateur pour faire des trucages. C'est incroyable, hein? Pierre est menotté, Pierre est enchaîné, l'ange apparaît, les chaînes tombent, hein? Vous imaginez la surprise de Pierre si ça vous arrivait. Vous imaginez si ça vous arrivait, comment vous réagiriez? Pardon. Puis l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, était réel, mais s'imaginant avoir une vision, et lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Qu'arrive-t-il ici? Regardez. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que c'est le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Frères et sœurs, quand j'ai lu ce passage, il y a deux mots qui ont vraiment retenu mon attention. Et pourtant, j'ai lu ce passage à de nombreuses reprises depuis que je suis chrétien. Si vous lisez le verset 5, il est écrit, « Pierre, donc, était gardé dans la prison. » Et l'Église ne cessait d'adresser d'instantes prières à Dieu pour lui. Les deux mots qui ont retenu mon attention, c'est « à Dieu ». À Dieu. Si je vous demandais à quel Dieu vous adressez vos prières, probablement que la grande majorité d'entre vous qui êtes assis dans cette salle ce matin, vous répondriez « Eh bien, je prie le seul vrai Dieu, et lorsque je prie le seul vrai Dieu, eh bien, je pense à lui. » J'aimerais que vous pensiez maintenant aux gens qui prient, et qui ne prie pas nécessairement le seul vrai Dieu. Voici ce que j'ai découvert lorsque je parle de la prière à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Je leur pose la question suivante, « À qui vous adressez-vous lorsque vous priez? » Ben, ils me répondent habituellement, « Je prie Dieu. » Je leur demande ensuite ceci, « À quoi ressemble ce Dieu que vous priez? » Eh bien, c'est celui qui est au ciel, me répondent-ils. Voici ce que j'ai découvert en parlant avec eux et en écoutant leurs réponses. Beaucoup de gens se sont fabriqués mentalement leur propre Dieu. Et ce Dieu qu'ils ont créé est toujours d'accord avec ce qu'ils veulent faire, avec les endroits qu'ils veulent fréquenter, avec la manière dont ils veulent s'habiller, avec le genre d'émissions qu'ils veulent regarder, et le reste. Ce Dieu qui se sont créés est un Dieu qui s'adapte parfaitement à tout ce qu'ils désirent. Et ils disent, je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu. Et je lui parle régulièrement en lui faisant connaître mes besoins. Je continue alors à leur demander ceci. Dites-moi ce que vous lui dites. Comment vous adressez-vous à ce Dieu? Quels sont les besoins que vous lui partagez? Vous savez quoi? Ils ne peuvent pas me répondre parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Ils se sont fabriqués un Dieu dans leur tête et ils ne vous diront jamais que c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui juge les actions des hommes et qui déteste le péché. Ils ne vous diront jamais cela. Ils vous parleront d'un Dieu qui a ajusté ses désirs avec les leurs pour qu'ils puissent justifier leur façon de vivre. Voilà pourquoi je dis que plusieurs personnes qui prient ne prient pas nécessairement le Dieu de la Bible. Certains me disent, mais quelle sorte de Dieu un chrétien prie-t-il? Je vais vous le dire, c'est le Dieu qui a créé le monde. C'est le Dieu qui a détruit ce monde par le déluge. C'est le Dieu qui a fait tomber le mur de Jéricho. C'est le Dieu qui a donné les psaumes à David. C'est le Dieu qui nous a donné, entre autres, les prophètes Isaïe, Jérémie et Daniel. C'est le Dieu qui nous a donné le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est notre Sauveur. C'est le Dieu qui nous promet que Jésus un jour reviendra chercher les siens. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Si ce n'est pas à ce Dieu que vous adressez vos prières, vous vous êtes fabriqué un Dieu à votre sauce et cela ne fonctionnera pas. Le Dieu que je viens de vous parler, de vient de vous décrire, est un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu parfait, un Dieu qui entend et qui répond aux prières parce qu'il promet de répondre aux prières des siens. C'est un Dieu qui nous aime de façon inconditionnelle. C'est un Dieu qui pardonne notre péché. Mais c'est aussi un Dieu qui ne tolère pas le péché parce qu'il sait que le péché détruit la vie de ceux qui aiment. Si ce n'est pas là les caractéristiques de Dieu, de ce Dieu que vous priez, vous ne connaissez pas Dieu. Vous vous êtes fabriqué un Dieu qui tolère et accepte tout ce que vous faites. Mais voilà, je dois vous avertir que ce Dieu, non seulement n'a aucun pouvoir pour vous promettre quoi que ce soit, mais qu'il ne peut rien vous promettre parce que c'est un Dieu qui est complètement impuissant. Vous pouvez trouver toutes sortes d'excuses concernant votre Dieu, mais vous ne parlerez jamais de jugement, vous ne parlerez pas de justice, vous ne parlerez pas qu'il y a un jour où tous les êtres humains comparaîtront devant lui pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. Et je remarque que ceux qui prient ce Dieu-là ne parlent pas de l'enfer qui attend ceux qui vivent comme ils le désirent. Ceux qui prient ce Dieu qui se sont fabriqués parlent souvent du paradis parce qu'ils croient que tout le monde va se retrouver au paradis un jour. Mais est-ce là la vérité? Absolument pas. Alors, si c'est vous ce que vous pensez, si c'est ce que vous pensez ce matin, si c'est votre façon de voir les choses concernant Dieu ce matin, votre Dieu correspond à celui que vous vous êtes façonné, mais ce Dieu ne peut rien faire pour vous. Quand j'étais en Ukraine, j'ai vu des gens se mettre à genoux, des chrétiens se mettre à genoux pour prier. Et ces chrétiens qui se mettent à genoux pour prier, Dieu, ce n'était pas leur papa. Dieu, c'était l'Éternel des armées devant qui il se présentait. Et la façon qu'il se courbait devant le Dieu, c'était comme s'il se présentait devant le président des États-Unis. Peut-être pas celui-là, mais en tout cas, devant un président. Voilà. Ouais. Ils étaient conscients devant qui ils se présentaient. Devant qui ils se présentaient. Et tout de suite, c'était, « Seigneur, je suis indigne de me présenter devant toi. Indigne. Je te remercie de me trouver digne en Jésus-Christ, de pouvoir me présenter devant toi ce matin. Et Seigneur, avant de dire quoi que ce soit, je veux que tu examines mon cœur pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui t'empêcherait non seulement de pouvoir m'entendre, mais de répondre aussi à mes prières. Parce que Seigneur, j'ai des besoins à te faire connaître. Et je veux aussi, Seigneur, que ton esprit me parle à travers ta parole et qu'il me fasse voir si ces besoins que je vais t'adresser, si ces besoins sont des besoins égoïstes. Parce que Seigneur, par-dessus tout, si je me présente devant toi pour te prier, c'est surtout pour que tu sois glorifié et que tu te glorifies à travers ce que moi je te demande. J'ai vu des chrétiens avant de prier pleurer. Pleurer devant la conscience en sachant devant qui ils se présentaient. Mais pleurer parce qu'ils étaient reconnaissants envers celui qui les avait sauvés. Ce n'était pas une histoire qui se limitait au jour de la conversion. Ça se répète jour après jour. Frères et sœurs, si le Dieu qui est le vrai Dieu, l'Éternel des armées, est ce Dieu que nous avons décrit il y a quelques instants, il est le Dieu qui nous a donné les 10 commandements et les béatitudes. Et tout ce que nous avons dans la Bible, la raison pour laquelle je vous ai demandé quel est le Dieu à qui vous adressez vos prières, c'est parce que si vous ne priez pas le seul vrai Dieu, cela ne fera aucune différence dans votre vie et ça n'augmente pas la mesure de votre foi. Parce qu'on va parler aussi des prières que Dieu répond. Là, on est dans la mauvaise partie du message, mais on va arriver dans la partie très édifiante et fortifiante du message. Mais l'idée, c'est qu'avant d'entrer dans cette partie-là, il est bon qu'on se pose des questions, quoi. Peut-être que c'est ce que vous vivez en priant le Seigneur, c'est que vous n'avez pas de réponse. Peut-être qu'il répond une fois, il ne répond pas une autre fois. Pourtant, il y a des promesses dans la Bible qui disent « Dieu répond aux prières qui sont conformes à la volonté de Dieu et surtout aux prières. » Dieu répond toujours, toujours, toujours à une prière qui le glorifie. Ça, c'est clair. Dieu répond toujours à ses prières. Toujours. Alors, quand on dit que Dieu répond aux prières qui le glorifient, c'est simple. Ça veut dire que tout ce qui est égoïste, eh bien, on ne le présente pas devant Dieu. C'est uniquement ce qu'on va présenter devant Dieu. C'est uniquement ce qui va le glorifier. Et ces chrétiens qui avaient appris que Pierre était emprisonné se sont rassemblés dans la maison de Marie pour prier. Ils suppliaient Dieu de faire quelque chose d'extraordinaire pour eux, parce que Pierre était tellement précieux à leurs yeux. Frères et sœurs, c'est une bonne leçon pour nous. Vous savez, souvent, on oublie de prier pour quelqu'un parce que la personne, elle n'est pas nécessairement précieuse à nos yeux. Si cette personne était précieuse à nos yeux, elle serait dans nos pensées, elle occuperait nos pensées jour et nuit. Quand on dit de prier avec instance, de prier avec ferveur, c'est de supplier Dieu, c'est de se présenter devant le trône de la grâce de Dieu et c'est supplier Dieu d'intervenir dans la vie de mon frère. Les chrétiens, c'est un réflexe, ils se sont rassemblés ensemble dans une maison. Ils n'ont pas eu besoin de venir à l'église, ils se sont rendus dans une maison et ils ont prié ensemble. Parce que si Pierre était exécuté, c'était un désastre total pour les chrétiens, particulièrement face à la persécution que l'église vivait à ce moment-là. Pierre était en prison et Dieu va envoyer son ange pour le faire sortir et le conduire vers la maison de Marie. Il savait que c'était à cet endroit qu'il s'était rassemblé pour prier. Il est écrit au verset 13 qu'il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Regardez bien la suite. Et des fois, ça nous ressemble. Regardez la suite. On aurait pu penser, les chrétiens sont rassemblés ensemble pour prier pour la délivrance de Pierre. Elle tend, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il y a quelqu'un qui dit, écoute, ouvre-moi. Elle entend, hein, c'est clair, elle entend, le texte nous dit qu'elle a reconnu la voix de Pierre. C'est intéressant de voir qu'elle n'a pas ouvert la porte. Hein? Vous avez remarqué ça? Les chrétiens sont rassemblés, ils prient. Ils prient pour que Dieu réponde à leur prière pour qu'ils délivrent Pierre. La servante va à la porte, ça frappe. Elle tend l'oreille et elle entend la voix de Pierre. La première chose qu'elle fait, elle s'en va retrouver les autres chrétiens. C'est vrai que c'était dans sa joie, nous dit le texte biblique. Mais là, elle retourne voir les chrétiens, elle va annoncer que Pierre était devant la porte. Regardez ce qu'ils lui disent, ils sont en train de prier. Tu es folle. Spécial, hein? En français courant, c'est « Hey, Rhode, t'as perdu la tête, hein? T'as perdu la tête, Pierre est en prison, voyons. » Regardez la suite. « C'est impossible que ce soit Pierre. » Ils sont en train de prier pour que Dieu le délivre. C'est impossible que ce soit Pierre, peut-être un ange, mais ce ne peut pas être lui. Mais elle affirmait que la chose était ainsi, et pendant ce temps, Pierre continuait à frapper à la porte. Pauvre Pierre, il devait se demander qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, quoi. Hey, qu'est-ce qui se passe? Je frappe. Je viens d'être délivré par le Seigneur. Il savait qu'il y avait une réunion de prière là. L'ange lui avait indiqué. Et là, imaginez. Il prie avec ferveur que Dieu le libère. Dieu le libère et il réagit en disant, « Tu es folle, c'est impossible que ce soit Pierre. » Cependant, Pierre continua à frapper, nous dit le texte. Et ils ouvrirent la porte et furent étonnés. Le mot « étonné hein, » de le voir. Dieu avait répondu à leur prière. Il y a combien de chrétiens qui supplient le Seigneur de répondre à leur prière? Et quand Dieu répond à leur prière, ils font exactement comme ces chrétiens. Ils sont étonnés que Dieu ait répondu à leur prière. C'est incroyable, hein? C'est incroyable comment on est fait. Pourtant, la parole, elle est claire, hein? Quand tu demandes quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. C'est ce que le Seigneur Jésus dit, hein? C'est pas le pasteur Jean qui l'a dit, c'est le Seigneur Jésus. Et pourtant, eh bien, ils ont reçu et ils sont étonnés. Au point de traiter une de leurs sœurs de folle. Moi, je n'ai jamais traité quelqu'un de fou ici, ni de folle. Mais vous imaginez, si ça sortait de ma bouche, comment vous réagiriez? Tu es folle, Rhode. Tu as perdu la tête. Pierre, il est en prison. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Rhode et le groupe, mais elle doit sûrement dire, mais pourquoi vous priez? Mais pourquoi vous priez? Et pourquoi vous êtes étonné qu'il soit libéré? Qu'est-ce que vous vous attendiez en priant? C'est que Dieu réponde à votre prière, non? Ben, il a répondu, je vous dis, il est à la porte. Prier par la foi, c'est quelque chose, hein? Regardez ici, ils suppliaient le Seigneur. Ils étaient rassemblés ensemble. Le Seigneur aurait pu leur dire, le Seigneur Jésus, s'il leur avait réapparu, il aurait dit, « Comme votre foi est petite, comme votre foi est petite. » Vous vous appuyez sur vos sentiments, sur vos impressions, plutôt que sur la parole de Dieu, sur les promesses de la parole de Dieu. Et il en est ainsi pour nous, chers frères et sœurs. L'Église d'aujourd'hui, les chrétiens de l'Église d'aujourd'hui réagissent comme les chrétiens de l'Église primitive, et ainsi de suite. C'était comme ça tout au long de l'histoire de l'Église. Et pourtant, Dieu est notre bon berger. Dieu est là pour nous protéger. Dieu est là pour veiller sur nous. Dans un cantique, à plusieurs reprises, on a vu aussi que Dieu était notre refuge. Le psalmiste, dans les psaumes, le mot « refuge » sort régulièrement. On sait que David a eu besoin de se réfugier en Dieu parce qu'une grande partie de sa vie, il a été poursuivi par Saül qui voulait avoir sa tête. Et David savait très bien ce que c'est que de trouver un abri dans les mains du Tout-Puissant. Mais ça n'a pas changé. Dieu avait répondu à leur prière. Frères et sœurs, il est écrit qu'ils adressaient avec insistance des prières à Dieu. Combien d'entre vous prie Dieu? Combien de fois vous êtes-vous mis à genoux avec l'intention de parler à Dieu de choses qui vous préoccupaient concernant votre mari, concernant votre épouse, concernant vos enfants, ou votre situation financière, peu importe, et que vous vous êtes retrouvé en train de prier pour autre chose parce que vous aviez la tête ailleurs? Puis vous vous êtes levé pour vous vaquer à vos occupations? Et si quelqu'un vous avait demandé 2 heures plus tard si vous aviez déjà prié, vous lui auriez sûrement répondu, « Oui, c'est déjà fait. C'est la première chose que j'ai fait en me levant. » Et si vous avez demandé quels étaient les sujets de prière que vous aviez adressés à Dieu, vous lui auriez dit que vous aviez prié pour différentes choses sans vraiment trop vous rappeler ce pourquoi vous avez prié. Pourquoi vous pensez qu'on est dérangé dans notre temps de prière? Pourquoi vous pensez qu'on est bombardé de toutes sortes de pensées? Pourquoi quand quelqu'un qui travaille dans un bureau prend son temps de prière à 7 heures le matin, il commence à prier, puis à un moment donné, il y a un flash qui vient, là, il pense à ce qui va arriver au bureau, quand il va arriver, ce qu'il doit faire au bureau, patati patata. Là, ça tourne pendant une demi-heure, et là, il regarde sa montre, bien, il est temps qu'il s'habille puis qu'il parte. Et c'était sa réunion de prière, quoi. Le diable est là, frères et sœurs, hein? Le diable est là pour venir chuchoter toutes sortes de choses dans nos oreilles, hein? Pour nous empêcher d'avoir cette réunion avec le Seigneur le matin, parce que c'est la première réunion qu'on devrait avoir, hein? La première rencontre qu'on doit faire le matin, c'est avec le Seigneur. Et quand on demande, souvent, ça m'est déjà arrivé, hein? Quand on vous demande, bien, c'était quoi tes sujets de prière un matin? Bien là, vous cherchez, hein? Ouais. Et si vous êtes capable d'aller puiser dans vos sujets de prière de la veille ou de le lendemain, il y a d'une semaine, bien, vous allez peut-être sortir ceux-là, hein? Mais c'est vrai que c'est dérangeant de prier, ça dérange vraiment notre adversaire. Frères et sœurs, il arrive trop souvent qu'une grande partie de nos prières ne sont pas répondues parce que notre esprit n'est pas là lorsque nous adressons nos prières à Dieu. Je prie Dieu pour ma situation financière, je prie Dieu pour mon mari, je prie Dieu pour mon épouse et pour mes enfants. Malheureusement, il arrive assez souvent que notre esprit est ailleurs lorsque nous prions, au point où il peut nous arriver de ne même pas nous rappeler ce que nous avons demandé à Dieu. Frères et sœurs, lorsque je prie, je m'adresse au Père Céleste pour lui faire connaître telle ou telle chose qui sont bien spécifiques. Rappelez-vous le vélo de Hudson Taylor. Ah, il était en mission, il avait besoin d'un moyen de transport. Il prie le Seigneur de lui donner un vélo. Ça fait 2 semaines qu'il attend après son vélo. C'est rendu 1 mois qu'il attend après son vélo. Il n'est pas de bonne humeur. Il se met à genoux. Il dit, Seigneur, tu dis que quand on prie, tu réponds, tu sais que j'ai besoin d'un vélo. Là, regarde les routes. Regarde les routes, c'est bon pour le piétonnier puis un vélo. Et là, il entend la voix du Saint-Esprit qui lui dit, j'ai beaucoup de vélos à ta disposition. Mais je ne sais pas lequel t'envoyer. J'ai besoin de connaître la marque, la grandeur du cadre et la couleur. Et Hudson Taylor, il demande pardon à Dieu de ne pas avoir été spécifique. Et quelques jours plus tard, il sort de chez lui. Il n'en avait pas parlé à personne d'autre qu'à Dieu. Il sort de chez lui. Et juste contre le mur de la maison, il a exactement le vélo, la marque, la couleur, la grandeur du cadre qu'il avait demandé au Seigneur. Et ça, ça ne fortifie pas votre foi. Ça ne fortifie pas votre foi. Vous n'en avez pas parlé à personne. Là, tu te dis, moi, je viens de parler au Dieu de la Bible. Hein? Le Dieu qui entend, le Dieu qui a des oreilles pour entendre. Et le Dieu qui répond à travers sa parole. Dieu est honoré lorsque nous nous présentons devant lui. Il est honoré lorsque nous lui parlons. Et il est honoré de nous entendre prier et de répondre à nos prières. Il dit à Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous annoncerai de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. » Frères et sœurs, ça, c'est un privilège de prier. Dans vos prières, Dieu va vous révéler des choses qu'il ne révélera peut-être jamais à personne d'autre. C'est pas moi qui le dis. Jérémie 33, 3, « Je vous annoncerai de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. » C'est pas moi qui le dis, Jérémie. Frères et sœurs, si Dieu a pu séparer la mer Rouge en deux, s'il a pu faire tomber les murs de Jéricho, s'il a pu nous donner les 10 commandements, il peut répondre à toutes les prières que nous lui adressons qui sont conformes à sa volonté et à son plan pour notre vie. Il y a deux choses que Dieu, pour que Dieu réponde à trois choses. Il faut que votre prière, elle glorifie Dieu. Il faut qu'elle soit conforme à sa volonté, mais aussi conforme au plan que Dieu a pour vous. Parce que peut-être que ça ne correspond pas du tout ce que vous demandez au plan que Dieu a pour vous. Ça serait sa volonté de vous le donner, mais si ça ne correspond pas au plan que Dieu a pour vous, il va retenir cette prière. Et il répondra peut-être plus tard. Et même Dieu peut dire non. Hein? C'est une réponse, le non aussi. Hein? Ouais. Non, j'ai autre chose de plus important pour toi en réserve. J'attends que tu me le demandes. J'attends que tu me le demandes. C'est important. J'aimerais vous rappeler ceci concernant ces chrétiens de l'Église primitive. Il est écrit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui de ferventes prières à Dieu. Vous savez ce que cela signifie? Le fait de prier avec ferveur dénotait qu'ils priaient de tout leur cœur. Frères et sœurs, priez-vous de tout votre cœur pour la conversion de vos enfants. Dans nos réunions de prière du jeudi, il y a des gens qui pleurent quand ils prient pour la conversion de leurs enfants. Ça remonte à quand la dernière fois que vous êtes mis à genoux pour prier pour la conversion de vos enfants? En suppliant Dieu dans les larmes d'avoir pitié de vos enfants et de les sauver. Alors, si vous n'en êtes pas rendu là, ne soyez pas surpris que Dieu retienne encore sa réponse par rapport à vos enfants. Dieu, ce n'est pas le gars qui est au guichet de la SNCB à vous attendre à ce que vous donniez votre argent pour vous donner un ticket. Dieu, c'est le Dieu qui contrôle le monde, c'est le Dieu qui tient l'univers dans ses mains. Et c'est le Dieu qui prend plaisir à répondre aux prières de ses enfants. Et frères et sœurs, quand je regarde ce que j'ai vu en Ukraine, quand on lit le livre des Actes, comment la façon de prier les premiers chrétiens de l'Église primitive, je ne vise personne, hein, je suis le premier à me frapper la poitrine, hein. Mais on est très loin du compte, frères et sœurs. Très loin du compte. On est une grande génération dans nos églises à prier par routine. Même pas nécessairement parce que ça nous tente, par routine. Parce qu'on doit le faire. Hey, quand vous regardez qu'ils priaient, ils faisaient d'instantes prières, de ferventes prières, bien le texte grec, là, c'est à genoux, en train de pleurer. Le vrai mot, là, c'est « en agonisant ». Comme Jésus, c'est le même terme dans Luc chapitre 22, verset 42. C'est le même terme pour la prière qui est utilisé pour Jésus qui va bientôt se faire crucifier. C'est comme si tu étais en train d'agoniser. C'est une question de vie ou de mort pour toi. Je ne sais pas si pour vous, la conversion de vos enfants, c'est une question de vie ou de mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez où ils vont passer l'éternité s'ils ne sont pas sauvés. Mais moi, pour moi, il en reste un sauvé. C'est une question de vie ou de mort pour moi, quoi. Moi, je veux que mon dernier fils, je veux qu'il passe l'éternité avec moi, quoi. Parce que je sais ce qu'il attend. Et je sais ce qu'il attend, pas parce que je vais vous faire peur, parce que le Dieu de la Bible le dit. Pas le Dieu que je me suis fabriqué, le Dieu de la Bible le dit. « Quand je m'adresse à Dieu avec ferveur, cela signifie que je vais citer une promesse qu'il a faite dans sa parole, et ce, non pas pour lui rappeler qu'il doit faire ce qu'il a promis de faire pour moi, mais pour me rappeler à moi ce qu'il a promis lorsque je viens à lui pour lui adresser ma prière. Il est écrit dans Luc, j'ai dit 42, excusez-moi, c'est Luc 22, 44, que Jésus priait avec encore plus de ferveur, sachant qu'on viendrait le chercher pour le crucifier. Ouais, c'est ça, je vous pose une autre question. Ça remonte à quand la dernière fois que vous pouvez dire « J'ai prié avec ferveur pour un tel ou pour une telle. » Cela sous-entend que vous y avez mis tout votre cœur. Cela signifie que vous pleuriez en nommant le nom de ces personnes au point de dire « Seigneur, je ferai tout ce que tu veux. » Tout ce que tu veux. J'ai eu des choses à régler dans ma vie. Et tout au long de ma vie chrétienne, de toute façon, hein. Mais à un moment donné, j'ai pris conscience jusqu'à quel point c'était sérieux pour Dieu la conversion de nos enfants. Et j'ai dit, Seigneur, en prière, j'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose que je fais qui peut empêcher mon fils, qui pourrait être un contre-témoignage et empêcher mon fils de t'accepter, Seigneur, mets-le en lumière pour que j'abandonne cette chose-là. Parce que je suis conscient, je le répète encore une fois, où mon fils va passer l'éternité. Souvent, nous disons à quelqu'un, je vais prier pour vous. Et nous ne devrions pas dire cela si nous n'avons pas vraiment l'intention de prier pour eux avec ferveur. Si je dis à des personnes que je vais prier pour elles, je viens de m'engager à prier pour elles et je vais faire quelque chose pour me rappeler que je leur dis que je prierai pour elles, je vais tenir une liste de prières. Chers amis, si vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous, lorsque vous lui adressez une prière, il ne faut pas vous contenter de lui soumettre votre fardeau une seule fois. Pourquoi? Parce que vous devez laisser le temps à Dieu d'intervenir face à certaines situations dans lesquelles sont impliquées ces personnes pour qui vous priez, afin qu'ils puissent répondre à vos prières. Je vais vous donner un exemple concret. Georges Muller, il voulait acheter un terrain, il avait commencé avec une quinzaine d'orphelins, il était rendu à plus de 1000 orphelins, et il voulait acheter un grand terrain pour pouvoir construire les orphelinats. Le problème, il avait une somme d'argent bien particulière, on va dire 25 000 euros, alors que les terrains qu'il avait visités, ça n'en valait peut-être 400 000 euros. Et il va à la commune, il regarde qui était propriétaire de ce terrain vacant. La commune, on lui donne le nom du propriétaire. Donc, à l'époque de Georges Muller, le téléphone n'était pas encore arrivé. Donc, il part, il s'en va, il va frapper à la porte et on lui apprend que le propriétaire n'est pas là. Donc, il est déçu et un petit peu fâché de ne pas voir le propriétaire... De ne pas avoir vu le propriétaire, parce que pour lui, c'était urgent d'avoir le terrain. Il aurait fallu qu'il l'aille le jour même. Il retourne, il est déçu, il en parle avec sa femme, et ainsi de suite. Le lendemain, il retourne, le propriétaire, et finalement, il retourne pour demander s'il pouvait acheter le terrain. Le propriétaire lui ouvre la porte. Il est fâché, le propriétaire. Il est fâché. Il ne l'a jamais vu, mais il est fâché. Il dit, c'est pas aujourd'hui que vous auriez dû venir me voir, c'est hier. Parce qu'hier, je ne vous aurais jamais vendu le terrain 25 000 euros. Je l'aurais vendu pour la valeur qui vaut 400 000. Mais durant la nuit, il y a une voix qui m'a réveillé qui m'a dit, tu vends ton terrain à Georges Muller pour 25 000 euros. Alors, il dit, je vous le vends pour 25 000 euros parce que la voix que j'ai entendue, je ne voudrais pas qu'on te revenir à ses plans. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Hey, comment voulez-vous que votre foi ne soit pas boostée quand vous entendez un gars qui vous dit, j'ai entendu une voix? Je ne t'ai jamais rencontré, qui m'a dit, écoute, il y a un gars qui s'appelle Georges Muller qui va venir te trouver demain, tu y vends aujourd'hui, tu vas lui vendre ton terrain, non pas 400 000, le prix qu'il vaut, mais tu vas lui vendre 25 000, parce que j'ai besoin, Dieu dit, j'ai besoin de ce terrain pour pouvoir abriter plus de 1000 orphelins. Et le gars, il était fâché, ben oui. Alors, je ne sais pas si vous avez un terrain 400 000, vous voulez lui vendre 25 000, ce n'est pas avec le sourire que vous allez donner à l'acheteur, hein? Frères et sœurs, c'est nous qui limitons la puissance de Dieu dans nos vies. En ne sachant pas premièrement comment nous présenter devant lui, en oubliant de nous rappeler devant qui on se présente, et en sachant que celui devant qui on se présente, il a tout pouvoir sur toute chose. Il peut faire changer toutes les choses. Pourquoi la liste de prières est importante? Georges Muller a tenu une liste de prières pendant toute sa vie. Et il a pu dire à la fin de sa vie, en comptabilisant les prières que Dieu avait répondu à plus de 10 000 prières dans sa vie. Frères et sœurs, depuis que vous êtes au Seigneur, si on vous demandait de verser la liste de prières que vous avez faites depuis le début, la liste des gens que vous avez inscrits avec la date en haut, vous avez commencé à prier, et la date que Dieu a répondu, combien vous pourriez cocher, ça c'était répondu, ça c'était répondu, ça c'était répondu, ça c'était répondu. Frères et sœurs, la prière, c'est la question sérieuse dans l'Église. C'est le ministère le plus important dans l'Église. On peut partir n'importe quoi. Si ça ne commence pas par la prière, on va nulle part, c'est dans la chair. Dieu ne sera pas glorifié, c'est nous qui allons nous enfler la tête parce qu'on réussit les choses. Et le diable est derrière ça. Tu es correct, tu es bon, tu exerces ton don, mais sans Dieu. Parce que tout doit commencer dans la prière. Et les chrétiens de l'Église primitive sont des témoins fidèles pour nous. Peut-être que ce matin, votre vie de prière, elle est nulle, mais confessez votre péché au Seigneur. Moi, je n'ai pas les moyens, moi, de vous pardonner vos péchés, mais le Seigneur a les moyens de le faire. Et il va vous pardonner, c'est une promesse. Dans la première épître de Jean, il est fidèle et juste pour vous pardonner tout péché. Vous pensez que ce n'est pas sérieux, la prière? Le prophète Samuel dit qu'il ne cesserait pas de prier de peur de pécher s'il arrêtait de prier. Pour le prophète Samuel, c'était péché de ne pas prier. La prière, c'est la chose la plus importante dans l'Église. On pourrait prier, rester assis ici, on pourrait avoir le Saint-Esprit amener les âmes, rentrer les âmes dans l'Église, rentrer les âmes dans l'Église. Charles Finney priait, on n'a pas besoin de faire des flyers dans les boîtes aux lettres. Hein. Il arrivait dans une ville, le Saint-Esprit poussait les païens à venir à l'Église. Il prêchait, les gens voyaient l'enfer s'ouvrir devant leurs pieds, ils se confessaient, en pleurant, en criant, en hurlant que Dieu ait pitié d'eux. Mais à cette époque, il y a des gens qui priaient. Hein. Il y a des gens qui priaient pour un réveil. Hein. Pas pour que leur don passe en premier, hein, pour qu'il y ait un réveil dans l'Église. Et Dieu a béni Charles Finney. Hein. Charles Finney a mis les pieds à New York. Hein, et quand il est sorti de New York pendant 2 ans, les bars ont été fermés, les cafés ont été fermés, les théâtres ont été fermés. Hein. C'est des églises qui se sont implantées partout à New York. Hein. Parce que l'Église priait, hein. Dans une saison d'hiver, hein, c'est ça, Gigi, hein? Une saison d'hiver, 500 000 personnes sont venues au Seigneur. Hein? 500 000 personnes se sont converties. Je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu une armée d'hommes et de femmes pour prier pour son ministère, eh bien, il n'y aurait pas eu toute cette récolte. Et la première chose à laquelle l'Église doit revenir aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vu en Ukraine avec les gens qui n'ont rien, eh bien, on doit revenir à la base, on doit prier comme les chrétiens de l'Église primitive priaient. L'année passée, oui, c'est l'année passée, on a pris une semaine de jeûne et de prière pour l'évangélisation dans la rue. Il y a des témoins ici, ils peuvent tous se lever, ceux qui ont participé, et dire que c'était complètement différent des autres années. Dieu nous a ouvert des portes, Dieu a disposé des cœurs pour que les gens nous entendent. Et le fruit de tout ça, à travers un simple flyer, on a notre soeur Marie-Paul qui a accepté le Seigneur. Et il y en a d'autres, on a une liste de noms, on en a d'autres qu'on doit aller visiter. Mais on manque d'effectifs, on a besoin de frères et sœurs qui sont là pour prier et qui sont là pour se lever, pour venir rencontrer ces gens. Ainsi donc, si vous priez une seule fois en vous disant que Dieu n'a pas répondu à vos prières et que vous ne priez plus pour ce sujet, vous ne lui donnez pas l'opportunité de répondre à votre prière de la façon qu'il veut répondre, de la façon qu'il la glorifiera le plus et de la façon qu'il vous bénira, que cela vous bénira le plus. N'a-t-il pas dit, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Frères et sœurs, c'est une promesse du Seigneur, ça. Hein? « Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. » Allez voir dans le dictionnaire français qu'est-ce que ça veut dire invoquer. Allez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire répondre. Frères et sœurs, si vous avez vraiment à cœur les gens pour lesquels vous priez, vous allez faire quelque chose qui va vous rappeler de les garder en prière jusqu'à ce que Dieu intervienne pour changer les circonstances. Voilà pourquoi une liste de prières, c'est important pour un chrétien. Et ça va vous éviter de vous faire prendre de court aussi. Des fois, on donne tel nom à quelqu'un, il dit, « Oui, c'est quoi son nom? Je vais prier pour lui. » Et 3 semaines après, tu le rencontres, tu dis, « Et puis, comment ça va, les prières? »« Ah, ça va, ça va. » « Bien, tu te souviens de qui je parle, hein? » « Ah, il ne se souvient pas de son prénom, hein? » Ouais. Alors, quand on dit qu'on s'engage à prier pour quelqu'un, On s'engage à prier quelqu'un. On ne fait pas juste saisir un non-vol, puis qu'on s'en débarrasse rendu à la maison. On prie pour cette personne-là, parce qu'on sait que parce qu'on est un enfant de Dieu, Dieu nous donne ce privilège de pouvoir non seulement nous écouter, mais aussi de répondre à la prière. Alors, vous pouvez vous dire quelle sorte de liste, une liste sur laquelle vous inscrivez les noms de ceux que vous, pour qui vous priez. Vous mettez la date que vous avez commencé à prier. C'était la façon de George Miller de fonctionner. Vous commencez à prier et à mettre la date pour laquelle vous priez Dieu et que Dieu réponde à votre prière. Et quand Dieu a répondu à votre prière, vous mettez à côté la date à laquelle il a répondu. Dieu peut répondre au bout de 3 mois. Dieu peut répondre au bout de 6 mois. Dieu a répondu à des prières de George Miller après qu'il soit décédé. Mais Dieu, c'est son temps, c'est le temps de Dieu. Et comme je vous ai dit, Dieu a des choses à régler dans la vie des gens. Ça peut y prendre un certain temps, les faire passer différentes épreuves. Mais vous pouvez être certain d'une chose, si vous êtes droit dans vos bottes avec le Seigneur, si vous marchez comme la parole de Dieu dit, tôt ou tard, Dieu va répondre à votre prière. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen! Les chrétiens d'Église primitive étaient des gens intelligents. Ils se sont rassemblés ensemble pour prier pour que Pierre soit libéré. Et alors, grande surprise, il a été libéré. Qu'est-il arrivé? Pierre a vécu par la suite de nombreuses années. J'aimerais vous poser la question suivante. Si vous deviez décrire votre vie de prière ce matin, à quoi ressemble-t-elle? Vous répondriez peut-être, « Eh bien, je prie avant de me coucher. » Qu'entendez-vous lorsque vous dites que vous priez avant de vous coucher? Je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais si vous priez juste avant de vous mettre au lit, je peux déjà vous dire que vous allez avoir des ennuis, parce que premièrement, vous pouvez être déjà à moitié endormi avant même d'avoir commencé à prier, au point de ne même pas vous rappeler ce que vous aurez dit. En tout cas, si jamais on est dans un camp, n'invitez jamais le pasteur à prier avant que je me couche, parce que si vous priez le premier, puis vous dites « Amen », vous allez m'entendre ronfler. Moi, c'est vraiment pas mon temps de prier avant d'aller me coucher. Moi, je tombe endormi. Je me mets à genoux, puis je me mets la tête sur le matelas, et il faut que je prie le premier, sinon je suis parti, quoi. Donc, vous connaissez déjà une de mes faiblesses parmi les autres, mais voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas le moment, quand on est couché dans le lit, puis qu'on est fatigué de la journée, de commencer à se concentrer, à prier le Seigneur. Il faut trouver des moments. Chers amis, priez le Dieu Tout-Puissant à travers son Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix en versant son sang pour nos péchés. Priez Dieu pour être sauvé à travers son Fils Jésus-Christ, c'est une chose extrêmement sérieuse. Priez Dieu pour nos besoins, quelque chose d'extrêmement sérieux. Priez les uns pour les autres, quelque chose d'extrêmement sérieux. Pour Dieu, prier demeure non seulement quelque chose de sérieux à pratiquer, mais c'est une démarche qui nous permet de voir Dieu agir avec puissance, non seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres, et répondre à ce que nous lui avons demandé. Prier avec ferveur permet de voir la vie des gens être transformée, et cela peut amener une nation à connaître un réveil, et le peuple de Dieu a besoin de prier comme les chrétiens de l'Église primitive le faisaient. Amen. Amen. On va se lever, on va chanter un cantique.